Décryptage, Marie Casadebé.
Les prix du cacao ont flambé la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis 11 mois. Une réaction à l'annonce historique des deux principaux producteurs de fèves, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ne vendront pas leur cacao issu de la récolte 2020-2021 à moins de 2 600 $ la tonne. Les deux pays espèrent améliorer le sort de leurs agriculteurs qui croulent sous les charges.
Pour mes produits phyto, je suis obligé de payer au moins 15 boîtes. En plus de ça, j'embauche des gens, 5 personnes. Ça fait 500 000 francs. C'est 80% qui s'en va. Je dois payer l'eau. Je dois me soigner. Je dois manger. Je dois scolariser mes enfants.
Mais 300 $ de plus la tonne permettront-ils de changer le quotidien des agriculteurs? Les industriels suivront-ils sans pour autant se détourner de ces deux pays producteurs? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Philippe Chalmin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine et directeur du rapport Cyclope 2019 sur les marchés mondiaux des matières premières. Et nous sommes en duplex d'Abidjan avec François Ruff. Bonsoir. François Ruff, que j'espère nous allons pouvoir entendre dans un instant, chercheur économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, c'est le CIRAD. Le cacao s'échangeait à la mi-journée à 2 440 $ la tonne, après avoir atteint, je l'ai dit, un pic à plus de 2 500 $ mercredi, le jour de l'annonce de l'ultimatum. C'est 200 $ de plus que la veille. Philippe Chalmin, comment explique-t-on ce bond? Est-ce que le marché s'inquiète de l'annonce faite par la Côte d'Ivoire et le Ghana mercredi dernier?
Je ne suis pas sûr que le marché ait pris cela tellement au sérieux, sachant que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont fait une annonce de principe, puis ont dit on ne va pas vendre en dessous de 2 600 $ pour la récolte 2020-2021. Il faut faire comprendre aux auditeurs que l'habitude maintenant pour un certain nombre de pays producteurs est de vendre leur récolte en avant de manière à lisser un petit peu les tendances, à obtenir un prix moyen qui s'équilibre sur plusieurs mois. Et donc normalement, au début de la campagne, au 1er octobre de chaque année, pratiquement tout le cacao à récolter a déjà été vendu, ou au moins a vu son prix être fixé. Donc, pour l'instant, nous sommes dans le champ des annonces. Il y a une réunion qui a été programmée pour le 3 juillet. On verra ce qu'il en est. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que d'un point de vue historique, le cours actuel, 2 400 $, 2 500 $ la tonne, ça n'est pas un cours calamiteux. En 2017, on était aux alentours de 2 000 $ la tonne. Et par contre, oui, vers 2015-2016, une suite de mauvaises récoltes, on était monté au-dessus de 3 000 $ la tonne. Il faut comprendre que le prix du cacao, comme le prix de toute matière première et notamment de tout produit agricole au niveau mondial, il est lié à l'instabilité. C'est un prix instable lié à l'instabilité du rapport offre-demande et en particulier aux aléas sur la demande, qui peuvent être des aléas géopolitiques, c'était la guerre en Côte d'Ivoire, qui peuvent être aussi des aléas climatiques ou des maladies. Il faut savoir que le cacaoyer est un arbre relativement sensible. Il y a une délicieuse maladie, enfin, dont le nom est très poétique, le balai de sorcière, mais ça n'a rien de poétique pour les producteurs.
On va forcément l'évoquer, on va accueillir d'abord François Ruff. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, du CIRAD, donc en duplex avec nous d'Abidjan. On le disait, 2 440 $ la tonne aujourd'hui. Ça veut dire que finalement, le prix fixé par la Côte d'Ivoire et le Ghana est tout proche. Ça veut dire aussi qu'il est atteignable, selon vous?
Oui, c'est presque au plan des montants annoncés ou défendus, c'est presque un non-événement. On est pratiquement au prix de 2 600 $. On a eu une très bonne petite traite en Côte d'Ivoire et au Ghana, donc les prix n'étaient pas montés aussi haut qu'on pouvait le penser, mais à la prochaine grande traite où probablement les cacaoyers seront un peu fatigués d'avoir tellement produit au mois d'avril et au mois de mai, au mois de juin cette année, ils vont produire un petit peu moins à la fin de l'année. Donc 2 600 $, on y est quasiment. Moi, je pense qu'on est surtout dans une manœuvre de politique interne et de avec des échéances électorales proches. Le problème n'est pas tellement le.
Oui, parce que finalement, comme vous dites, 2 600 € la tonne, on y est presque. Donc c'est pas demander un effort surhumain aux industriels. C'est ça que vous voulez dire, et c'est pour ça que cette somme a été fixée, selon vous. Pourquoi 2 600 $ exactement?
Oui, dans la mesure où c'est un seuil qui va être atteint, les politiques, assez facilement, les politiques prennent pas trop de risques à l'annoncer. Aussi, on n'est plus dans une situation de guerre du cacao comme il y a 20 ans ou 25 ans, quand Houphouët Boigny avait essayé de sa politique d'embargo tout seul. Bon, là, il y a quand même un événement historique. Le fait de fixer le prix à 2 600 $ est un non-événement, mais le fait que la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour la première fois, se parlent et font une annonce commune, c'est quand même un bond en avant intéressant. C'était jamais arrivé avant.
À quand remonte justement cette coopération dans le secteur du cacao entre ces deux pays? Parce qu'on suppose qu'évidemment, il y a eu beaucoup de travail en commun avant d'arriver à l'annonce de cette mesure.
La chute des cours en 2016 a quand même marqué les esprits et les gouvernements. Je parlais d'échéance électorale qui arrive en 2020. Il y a des phénomènes plus interne à la Côte d'Ivoire, hein, on a reparlé d'ivoirité, le PDCI, certains partis politiques veulent essayer de récupérer, enfin bon, ils mènent leur politique interne, hein, j'ai pas à la juger ou à la critiquer, mais du coup, la politique et le cacao sont très mêlés, hein, le cacao est une des principales ressources du pays, donc on peut, d'une certaine façon, penser que cette annonce de prix de cours mondial, de défense des intérêts des producteurs, va un petit peu dans le sens des préoccupations à l'échéance de 2020.
Philippe Chalmin, des producteurs qui fixent le prix de leur production, cela paraît assez logique, mais en réalité, est-ce que c'est l'inverse qui se passe d'habitude?
Je dirais que non, ça n'est pas si logique que cela. Il faut bien se rendre compte que dans l'ensemble des marchés de matières premières, mais des marchés agricoles aussi, le prix, il se fixe par rencontre de l'offre et de la demande. François Ruff vient de faire allusion à la baisse du prix enregistré en 2016, le prix était passé de 3 000 à 2 000 $ la tonne. C'était quand même une très forte chute, partant, il faut bien le dire, d'un niveau relativement élevé. Ceci était lié à un excédent mondial de cacao sur la récolte 2016-2017, les années commençant le 1er octobre, excédent mondial qui était de l'ordre de 300 000 tonnes sur une production mondiale cette année-là, qui a été record, de 4,7 millions de tonnes. Donc on voit bien que simplement un excédent de l'ordre de 7 à 8 % de la production mondiale avait pu provoquer une baisse du prix de 50 %. Et c'est pour cela, et moi j'avoue que la déclaration très politique faite à Accra me fait rigoler, enfin me fait sourire, dirais-je. Parce que quand on dit nous voulons que nos producteurs soient payés un juste prix, l'économiste que je suis vous dira que je ne sais pas ce qu'est un juste prix. Que en particulier, il faudrait pouvoir comparer les systèmes ghanéens et ivoiriens. Le Ghana un marketing board, donc un office qui centralise la collecte et la vente du cacao ghanéen, le système ivoirien est beaucoup moins transparent, beaucoup moins efficace, et il y a un chemin entre le prix effectivement payé aux planteurs bord-champ et le prix tel qu'il est vendu sur les marchés internationaux.
Alors justement, ces agriculteurs, on va les entendre. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Pierre Pinto, s'est rendu à Agnébi Thiassa, au nord d'Abidjan, la semaine dernière, pour aller à la rencontre de certains producteurs de cacao.
Aujourd'hui, le cacao s'achète à 750, le coût de la vie est élevé.
Et une fois que vous avez payé ce que vous travaillez, les sacs, le transport...
Oui, 80% qui s'en va. 20% seulement qui reste dans ma poche. Pour les 365 jours, 20% de mon revenu, c'est quand même misérable.
Le président Foua a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais les producteurs de cacao, ce sont les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Oubliés complètement.
Si c'est dans la durée, si c'est sur un an, deux ans, trois ans, le producteur peut se dire, ah, je vais investir pour que ça m'aide dans mes prochains jours. Voici le problème. Sinon, à 1050 francs déjà, on aura de l'espoir.
François Ruff, est-ce que passer à 2 600 $ la tonne, alors qu'on n'est pas très loin, à 2 300, là aujourd'hui 2 400, est-ce que ça permettrait vraiment de faire évoluer les conditions de vie des producteurs de cacao ivoiriens et ghanéens?
Mais c'est pour ça que c'est en part, je parlais en partie d'un non-événement sur la fixation à 2 600 $. Le vrai problème, c'est la diminution de la taxation et la révision du barème. Donc on est dans une affaire de politique interne. Alors c'est habillé, c'est bon, ça peut donner un petit coup de pouce, 200 ou 300 $ de plus, mais le vrai enjeu, c'est de diminuer la taxation pour que, effectivement, les planteurs touchent non plus 50% ou 55% de la valeur du prix d'exportation, mais jusqu'à 70%. Et ça, c'est pas trop discuté sur les médias internationaux. On commence à avoir des soubresauts sur les radios intérieures, et ça soulève pas mal d'inquiétudes des planteurs. Parce qu'ils se disent, mais s'il y a, ils ont bien compris la notion d'embargo. Hein. S'il y a rétention, si les chocolatiers ne nous l'achètent pas, si l'État ne l'achète pas, qui va garder le cacao? Qui va supporter la période de stockage?
Philippe Samin, vous vouliez ajouter un mot?
Non, je crois que François Ruff vient de souligner quelque chose de très important. C'est que le rôle du cacao dans l'économie ivoirienne a été aussi, très largement, historiquement, de financer par le biais de la taxation, par le biais de la taxe de sortie, de financer le fonctionnement de l'État ivoirien. Alors, dans le cas, en plus, de la Côte d'Ivoire, où on avait autrefois une caisse de stabilisation qui fonctionnait plus ou moins bien, qui a été remplacée par un conseil du café et du cacao, dont on ne peut pas dire que l'efficience soit la qualité principale. L'année dernière, un chargeur de cacao parmi les plus importants a fait défaut et a fait faillite. Il a laissé des ardoises qui s'élevaient à plus de 150 millions d'euros. Quelque part, dans ce discours assez facile, largement repris d'ailleurs dans les médias, parce que c'est vrai, l'occidental qui mange son carré de chocolat trouve totalement intolérable que le producteur de cacao ne soit pas payé le juste prix. Moi, je suis désolé, il faudrait d'abord peut-être que les pays producteurs, et la Côte d'Ivoire, je le répète au premier chef, commencent à balayer dans son arrière-cour et à vérifier que le producteur touche une part peut-être un petit peu plus importante du prix d'export du cacao.
François Ruff, tout à l'heure, vous disiez que finalement c'était peut-être un argument électoral. Les deux pays, hein, les deux voisins, la Côte d'Ivoire et le Ghana, vont connaître une élection présidentielle en 2020. Mais alors, comment cet argument peut vraiment plaire finalement aux producteurs, aux agriculteurs, puisque on l'entendra tout à l'heure, ils sont pas convaincus, évidemment, des effets que cela va avoir sur leur quotidien.
Oui, mais il faut que ça réussisse. Si ça échoue, ce sera contre-productif pour les pouvoirs en place. Mais c'est un phénomène universel, non? À l'approche des élections, pendant très longtemps, les planteurs de cacao étaient si perdus dans leur brousse et si mal organisés et pesaient si peu lourd que les États et les gouvernements pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, les producteurs restent très peu organisés, mais enfin, quand même, ils ont accès aux médias, ils ont accès aux informations, leurs votes peuvent être commencés à compter, et donc ça devient une clientèle électorale. Et donc,
une idée peut-être du nombre d'électeurs, alors qu'ils représentent peut-être en Côte d'Ivoire, François Ruff, on parle de combien de personnes qui travaillent dans le secteur du cacao, entre tout à l'heure la personne qu'on entendait qui faisait travailler elle-même des gens dans ses champs, une petite idée du nombre de personnes que cela représente?
Oui, les variations, les estimations sont très variables. On parle d'entre 700 000 et 1 million de familles de planteurs. Donc, dans les familles de planteurs, c'est pas tout le monde qui vote, notamment au sein des familles. Et puis aussi, il y a toute une partie de planteurs d'origine étrangère qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, qui ne votent pas non plus. Mais quand même, dans l'ensemble, ça représente des centaines de milliers d'électeurs potentiels. Donc, dans le jeu de politique interne, il joue un rôle moins négligeable qu'autrefois.
Alors, vous parlez d'organisation, je propose d'écouter le président de l'Association nationale des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire, Lana Prossi, il s'appelle Kanga Kofi.
On salue toute initiative qui vient pour nous aider à avoir un bon prix, mais comment faire pour que le prix soit respecté, pour que le producteur ivoirien puisse effectivement en bénéficier? Ça, c'est tout un défi. Là où souvent nous disons que le gouvernement ivoirien pêche, parce qu'il y a un silence, tout ce qui est les gabegies, les scandales qui sortent de gauche à droite, mais jusque là, on refuse qu'un audit véritablement soit fait au sein de la filière. Donc, il y a tellement de problèmes à résoudre sur la question de la gouvernance. Nous disons que ça laisse encore à désirer au niveau côté ivoirien.
Producteurs de cacao ivoirien qui attendent de voir. Du côté des industriels, Philippe Chalmin, est-ce que les deux pays sont suffisamment incontournables pour que les industriels payent le prix demandé? On l'a dit, c'est un tout petit peu plus que les cours actuels. Est-ce qu'a priori, ils vont se plier à cette mesure-là?
Disons qu'il le pourrait. Il faut se rendre compte que Côte d'Ivoire plus Ghana, ça représentait sur la dernière campagne à peu près 2,9 millions de tonnes sur une production mondiale de 4,6. Donc vous voyez, ça fait un peu plus des deux tiers de la production mondiale. Donc ils sont quand même dans une certaine mesure incontournables, même si on peut arriver dans certains endroits à faire du chocolat sans trop de cacao, hein, il faut quand même le rappeler. Il y a quand même un souci de la part de nombre d'industriels qui s'inquiétaient que des périodes de prix relativement bas, trop longues, empêche qu'il y ait les réinvestissements nécessaires, c'est-à-dire de un cacaoyer, il a une durée de vie relativement limitée et il faut être capable de replanter, de régénérer un petit peu le verger de cacaoyer dans le monde. Or, on avait eu des déclarations, d'ailleurs assez catastrophistes, de gens comme Nestlé ou autres, disant que oui, ils seraient prêts à aller plus loin en termes de traçabilité, en termes de prix garanti, car finalement, cette idée de prix minimum, c'est le contrat de base que l'on retrouve dans le commerce équitable. Mais le commerce équitable, il ne représente qu'une niche. Moi, ma crainte, c'est que si jamais nous nous retrouvions sur, alors j'entends ce que dit François Ruff, que nous pourrions avoir de moins bonnes récoltes sur 2019-2020, et donc cela soutiendrait quelque part suffisamment le marché pour qu'on reste au-dessus de 2006. Mais imaginons sur 2020-2021 qu'on ait une récolte exceptionnelle, qu'on arrive à 5 millions de tonnes dans le monde. Ben, je vois mal comment les prix du cacao ne s'effondreraient pas. Et François Ruff rappelait une expérience précédente où Félix Houphouët-Boigny avait stocké du cacao, avait refusé de vendre, et ça s'était terminé par un échec total.
François Ruff, en quelques mots, pour vous, c'était un pari risqué ou pas tant que ça? Puisqu'on comprenait hein, que 2600 $, c'était pas exceptionnel le prix demandé.
Non, je suis assez d'accord avec Philippe Chalmin sur l'ensemble. Hein. Bon, pour le résumer, je crois que c'est tout à fait à la portée des multinationales. Effectivement, comme a dit Philippe, les chocolatiers eux-mêmes s'inquiètent un peu de... Bon, ils s'inquiètent moins aujourd'hui de la concurrence de l'EVA, mais à un moment, ils étaient paniqués de la possibilité que l'EVA prenne des milliers d'hectares aux dépens du cacao. Donc aujourd'hui, le prix du caoutchouc s'est effondré, ça les rassure. Mais enfin, dans l'ensemble, ils aiment autant que... Si tous les chocolatiers sont sûrs qu'ils vont payer le même prix, c'est insignifiant pour eux. Ouais. Il y a un chiffre qui est quand même choc. Une tablette de chocolat, il y a 6% de la valeur qui vont aux planteurs. Donc vous voyez qu'ils ont de la marge, ils peuvent donner 1% de plus.
On comprend alors, messieurs,
donc c'est pas très important pour
eux. Voilà, que le pari donc n'est pas risqué, mais plutôt politique. On on aura bien compris. Merci François Ruff d'avoir été avec nous en direct d'Abidjan grâce aux moyens techniques de Pierre Pinto. Merci Philippe Chalmin et merci à toute l'équipe de Décryptage.